sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En cette veille de Nouvel An, Franck Ferrand nous propose une émission spéciale sur l'année 2012, d'un point de vue historique. Bonjour Franck.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Quelles seront les grandes commémorations de l'année à venir? Quels personnages? Quels événements du passé vont ressurgir en 2012? Eh bien, c'est ce que nous allons voir au cours d'une émission pleine de surprises, vous allez voir.
Vous avez convié Alain Vircondelet à nous rejoindre.
Oui, Alain Vircondelet, écrivain, historien et auteur de deux ouvrages sur les Français d'Algérie, ce qu'on appelle les Pieds Noirs, et qui, en ce 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, seront cette année dans le rétroviseur des Français.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
On nous le dit, on nous le répète depuis longtemps, cette année 2012, qui commence donc demain, pourrait être la dernière, l'année de la fin du monde. Voilà qui va donner de la saveur à notre réveillon de ce soir. Nul doute qu'il sera question à table des Sumériens, des Mayas, de Nostradamus et de leurs prophéties respectives. Alors si cette rumeur vous amuse, ou si elle vous inquiète, je vous renvoie, entre nous, elle ne devrait pas trop vous inquiéter, je vous renvoie au document que vient de faire paraître Éric Laugérias chez Michel Lafon. Ça s'appelle 2012, tout un monde. Et en attendant cet apocalypse, je vous propose bravement de jeter ensemble un coup d'œil sur cet agenda 2012 des amateurs d'histoire et notamment sur les grandes commémorations de l'année qui vient. Alors pour nous accompagner dans cette exploration, j'ai convié à nous rejoindre dans ce studio un grand écrivain, Alain Vircondelet, biographe de Jean-Paul II, de Saint-Exupéry, de Camus, j'en passe. Bonjour Alain Vircondelet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en ce dernier jour et pour cette émission spéciale. Cette année, disons-le d'entrée de jeu, sera l'année Rousseau. En effet, le génial et agaçant Jean-Jacques est né à Genève en 1712. Il y aura donc 300 ans le 28 juin prochain. Il était orphelin de mère, c'est que sa mère est morte quelques jours seulement après sa naissance. Fils d'un horloger protestant d'origine française, dont la famille avait fui les persécutions religieuses du règne d'Henri II. Jean-Jacques Rousseau, comment le définir si c'est encore utile? On peut dire qu'il est un des inspirateurs essentiels du siècle des Lumières. Vous avez ce goût des pastorales, des choses simples, cette espèce d'état de nature idéalisé qu'on retrouve partout dans les années qui précèdent la Révolution. Et j'ai envie de dire, plus on travaille sur cette époque et plus on se rend compte de l'importance qu'avait pris ce modèle à l'aube de la Révolution, eh bien tout ça, c'est essentiellement son empreinte. Il était individualiste, évidemment, Jean-Jacques, idéaliste et même utopiste, adversaire inlassable de tous les abus, de toutes les dérives d'une société qui, selon lui, dans son principe même, corrompait les hommes. Il aura prôné la refonte de tout. La refonte de l'éducation, de la religion, du droit et naturellement des institutions. C'est ce qui fait de lui l'un des pères spirituels de la Révolution. Alors, Alain Vircondelet, on peut dire que ce tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau va faire plaisir à tout le monde, puisque maintenant, de gauche ou de droite, on se réclame partout de Jean-Jacques.
C'est un peu le paradoxe, effectivement, de Jean-Jacques Rousseau, et à la fois son extraordinaire modernité.
C'est ça.
Il est récupéré par tous les bords, et par tous les partis. Les hommes de gauche, les progressistes le reconnaissent, comme vous l'avez dit, à son goût pour ce qui va devenir l'écologie.
Hein. Oui, c'est vrai que c'est le premier des écolos, finalement.
Absolument.
Oui.
Et puis, en même temps, les grands démocrates, évidemment, on retrouve ici, à travers le discours, les deux discours, d'origine sur l'inégalité et sur les arts et les spectacles, dans ces deux discours, eh bien, il a prôné effectivement une démocratie. Ce qu'on oublie un tout petit peu.
C'est quand même l'homme du contrat social.
C'est l'homme du contrat social.
Il est à l'origine de ce qui va devenir maintenant partout dans le monde. Oui. La notion de démocratie, c'est incroyable. Il n'est pas le seul, hein, évidemment. Oui. Il est un de ceux.
Mais il y a quand même un petit bémol à ajouter. C'est que Jean-Jacques Rousseau a toujours dit que la démocratie n'était possible que dans des tout petits États. Et donc, aujourd'hui, nous essayons effectivement d'appliquer les grands principes démocratiques sur des grands territoires. Et évidemment, là vient le problème.
Quand on parle de la Chine ou de l'Inde, évidemment, ça pose un problème. Lui parlait de la Corse, essentiellement.
et de Genève même, ou de la Suisse. Oui. Enfin bon, mais c'était donc de tout petits. Il avait eu soin de dire que la démocratie ne peut s'appliquer effectivement que dans de tout petits États où finalement il y a un certain contrôle qui peut s'observer. Et il y a un paradoxe pour Jean-Jacques Rousseau. C'est lui qui a également apporté le sentiment religieux, l'esprit de consolation, l'esprit de compassion. Et on le retrouve aujourd'hui dans certaines associations, dans certains regards que l'humanité peut porter sur les humbles, les pauvres, les défavorisés. Il y a cette écoute-là. Et en même temps, Jean-Jacques Rousseau paraît désuet et complètement
un peu
obsolète.
C'est à l'écrivain que j'aimerais demander son avis sur l'auteur, sur l'écrivain.
Je pense que c'est un immense écrivain qui a fait que... il a été occulté, il a été éclipsé, voire humilié par Voltaire pendant très longtemps. On se souvient que Voltaire avait écrit, lorsqu'il lui avait envoyé
son livre,
c'est un peu Camus et Sartre.
C'est ça, voilà.
C'est un peu Camus et Sartre. De la même manière que Camus a été renvoyé à son Algérie natale, eh bien Rousseau a été renvoyé dans ses alpages. Et Voltaire le lui avait dit assez vertement.
Je vous renvoie pour la bibliographie à notre site internet. Il y a tellement d'ouvrages qui sortent cette année pour ce centenaire de Rousseau que je renonce à en citer certains. Alors, 100 ans avant Rousseau, naissait un autre grand homme dont on parlera moins en 2012, et c'est dommage, le grand, l'immense architecte Louis Levaux, qui me semble être l'incarnation de cette perfection qu'a connue le troisième art au grand siècle. Levaux est le père de nombreux chefs-d'œuvre, dont les plus connus sont évidemment le premier château de Versailles, le château de Vaux-le-Vicomte ou le collège des Quatre Nations. Autrement dit, vous savez, cette superbe coupole de l'Institut de France. Je vais vous faire une promesse en ce dernier jour de l'année. Le plus tôt possible, nous allons consacrer une émission à Louis Levaux. Il n'y a pas de date à respecter puisqu'on ne connaît pas au jour près la date de sa naissance. Il faut vous dire qu'il était d'origine très modeste, ce Levaux. Et puis, deux siècles encore avant cela, il y aura donc 500 ans cette année, voyait le jour un chef-d'œuvre pictural. On peut parler à son sujet d'une des plus belles peintures que l'on puisse voir en France. Lors de notre déplacement à Mulhouse, je crois avoir dit que ce chef-d'œuvre à lui seul justifiait un voyage en Alsace. Or, ce chef-d'œuvre, il faut aller à Colmar pour le voir, au musée Unterlinden. Et c'est lui, c'est cet ensemble de panneaux peints par Matthias Grünewald que l'on appelle le retable d'Isenheim. Nous avons en ligne, pour en parler, le conservateur de ce musée Unterlinden, Panticha de Pape. Bonjour, Panticha de Pape.
Bonjour, monsieur.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez la chance de veiller sur une des plus grandes merveilles qui soit et qui a donc 500 ans.
Il y a 500 ans, approximativement. C'est vrai que comme pour l'architecte dont vous parliez tout à l'heure, on n'a pas exactement la date. On n'a malheureusement pas le contrat pour un chef-d'œuvre aussi grand que le retable d'Isenheim. Mais tous les historiens sont d'accord pour dire qu'il a priori été commencé en 1512. Et le travail s'est peut-être fait entre 1512 et 1516. Donc l'année prochaine, en fait, le cinquième centenaire de cette œuvre fantastique.
Ah oui, fantastique. Multiple, il faut dire. Il y a de nombreux panneaux qui sont... très bien exposé au musée Unterlinden. Et il faut dire surtout que nous sommes en face d'une œuvre d'une force tout à fait extraordinaire. Il y a quelque chose de l'expressionnisme, évidemment, dans cette œuvre.
Oui, c'est ce que tous les gens pensent, en fait, et ressentent en le voyant. Parce que quand on rentre dans le musée Unterlinden, dans la salle où se trouve le retable, alors par chance, en plus, c'est une ancienne église.
Mais c'est donc une chapelle sublime.
Ça correspond assez bien à ce que pouvait être le retable quand il était dans son lieu d'origine, puisqu'on l'appelle le retable d'Isenheim, tout simplement parce qu'il vient de l'église d'Isenheim, qui était un ordre religieux, et dans cette église avait été commandé ce retable par un personnage assez extraordinaire, qui était supérieur de l'ordre des Antonins d'Isenheim, un ordre qui avait comme saint patron saint Antoine, et en fait on venait à Isenheim prier devant le retable d'Isenheim pour éviter ou conjurer une terrible maladie qui au Moyen-Âge s'appelait le feu de saint Antoine, et comme son nom l'indique, en fait, les gens qui en étaient malades brûlaient de l'intérieur, et donc ils n'avaient d'autre recours que de prier saint Antoine, et pour cela, ils venaient devant le retable. Et aujourd'hui...
Alors, le Christ du retable, quand le retable est fermé, est bien sûr très impressionnant. Il est la souffrance même. Mais à l'intérieur, derrière, il y a cette luminosité extraordinaire, cette symphonie absolument inouïe de couleurs, de lumières. On est en face de quelque chose de presque magique.
De magique. On passe par tous les états quand on vient au musée, parce que c'est vrai que devant le Christ, qui est terrifiant, il a une bouche ouverte, verdâtre, il fait peur avec les doigts tendu, enfin, très expressif, comme vous le disiez. Et puis, quand on passe vers les autres panneaux, tout d'un coup, on voit la lumière grandiose de la résurrection avec toutes les couleurs. Hein, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y sont, et le visage du Christ n'est que lumière. Après, on voit la beauté de la nativité avec la très belle robe rouge violacée de la Vierge et son beau manteau bleu. Et puis après, le panneau d'après, il y a l'agression de Saint-Antoine où on a des monstres qui aujourd'hui peut-être nous font rire, quoique les enfants ont un petit peu peur, mais qui sont tout autour de Saint-Antoine et qui le jettent à terre, et c'est un feu d'artifice en fait.
Vous êtes sensible, Alain Vircondelet, à ce chef-d'œuvre de Matthias Grunewald ?
Oh oui, très. Je suis très content d'en parler parce que j'ai beaucoup travaillé sur Joris Karl-Huysmans pour en avoir écrit la biographie. Et Grunewald a été effectivement le choc esthétique le plus bouleversant de sa propre vie. Il a dit, à propos du retable d'Isenheim, il a dit que c'était la preuve même du catholicisme. Le coloriste inouï, disait-il. Il disait encore « Je n'ai jamais vu d'art aussi acculé à la force, à la violence, à l'idéal à la fois. Il y a donc quelque chose qui est un typhon, le typhon d'un art déchaîné, disait Huysmans. »
Disait Huysmans,
c'est Huysmans qui a fait connaître le retable,
oui,
vraiment.
Oui, en effet, et il venait quelquefois prier, comme vous l'avez dit, prier devant le retable, parce qu'il était allé très souvent à Lourdes, et il trouvait qu'à Lourdes, il y avait une niaiserie Saint-Sulpicienne, alors que devant ce retable, eh bien, il y a l'expressionnisme ou le naturalisme surnaturel.
Si ce cinquième centenaire permet à certains de nos auditeurs de découvrir ce chef-d'œuvre, eh bien, ce sera une très bonne chose. Merci, madame, de nous en avoir parlé si brillamment.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Vous êtes sur Europe 1, il est 13h19, c'est un spécial au cœur de l'histoire et Franck, vous évoquez pour nous les dates anniversaires que nous fêterons en 2012.
2012 sera aussi, bien sûr, l'année du centenaire du plus célèbre naufrage de tous les temps, celui du Titanic, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. L'immense paquebot, tout le monde sait ça maintenant, venait d'être lancé à grand renfort de publicité. Il devait être le plus grand, le plus rapide, le plus luxueux et surtout le plus insubmersible de tous les navires. Vous imaginez ce qu'a dû être le retentissement de cette catastrophe, le choc des deux côtés de l'Atlantique provoqué par la nouvelle incroyable. Le Titanic a sombré, emportant avec lui des centaines de passagers. Cette catastrophe n'est pas la plus meurtrière de toutes les catastrophes maritimes, mais elle est assurément la plus connue de toutes, surtout depuis le film Événement de James Cameron. C'était il y aura bientôt 15 ans déjà. Pour en parler avec nous au téléphone, le grand spécialiste de la marine marchande en général et du Titanic en particulier, Gérard Piouffre. Bonjour Gérard Piouffre.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, j'imagine que vous vous préparez déjà à toutes les célébrations, commémorations, évocations dont nous allons être abreuvés en ce printemps 2012.
Ah, tout à fait. Eh bien, il y aura une commémoration, alors en France, à Cherbourg, pour le 14-15 avril. Donc, comme vous l'avez rappelé, ça sera l'anniversaire du centenaire. Cherbourg, ça a été la première escale du Titanic. Il y aura bien sûr une commémoration à Southampton, une autre à Cobb, anciennement Queenstown, et surtout, une grosse commémoration à Belfast, qui est le lieu de naissance du Titanic, où se trouve le Nomadic, qui était le transbordeur du Titanic à Cherbourg.
Alors vous-même, vous allez faire paraître là, dans les jours qui viennent, aux éditions First, en collection Histoire, un ouvrage qui s'appelle « Nous étions à bord du Titanic ». Ce sont des témoignages ?
Alors c'est un livre qui est entre l'histoire et la fiction. C'est-à-dire que je me suis glissé dans la peau d'un certain nombre de personnages, pas tous, parce que bien sûr ils étaient trop nombreux. Hein. Vous aviez au total 2228 personnes.
Il n'y a eu que 705 rescapés en fait.
C'est ça, c'est ça. Donc j'ai pris quelques-uns des personnages les plus emblématiques et je les ai fait parler, mais en me fondant sur leurs témoignages, devant la commission d'enquête, ou lorsqu'ils sont morts, sur les témoignages des personnes qui les ont vus.
Alors, ce qui est intéressant et presque incroyable, c'est qu'un siècle plus tard, on continue de découvrir des choses très importantes sur le Titanic, notamment sur les éventuelles erreurs de commandement, de pilotage qui auraient pu être commises.
Alors, sur cette erreur de commandement, effectivement, on a beaucoup parlé de bâbord, la barre à bâbord, la barre à tribord. En réalité, il n'y avait aucune ambiguïté. Ambiguïté, elle existe pour les terriens, mais pas pour les marins. À l'époque, on agissait exactement comme s'il s'agit, si vous êtes à bord d'un petit dériveur avec une barre franche, si je vous dis, là, bon, on va arrêter de parler de bâbord et tribord, ça sera plus simple, si je vous dis la barre à gauche, vous mettez la barre sur votre gauche à vous, et le bateau va tourner à droite.
Mmh.
Alors, les bateaux ont grossi depuis cette époque. Et puis par tradition, vous savez que les marins sont des gens qui aiment la tradition, eh bien, ils ont continué à adopter cette terminologie. Donc, si vous voulez, il n'y a eu aucune... De ce côté-là, il n'y a aucune erreur. En revanche, l'erreur, ça a été de couper les moteurs, et en particulier de couper l'hélice reliée à la turbine qui générait un filet d'eau sur le gouvernail et qui aurait permis au bateau de tourner plus vite.
En regardant récemment un très beau documentaire à la télévision, j'ai découvert deux choses qui m'ont paru très intéressantes. On nous parle toujours du choc, évidemment, du navire contre cet iceberg et de la coque avant, tribord qui aurait été complètement éventrée. Or, ce que montrait ce documentaire américain, c'est que la coque en question n'a pas été éventrée, ce sont bien les rivets qui ont sauté et qui ont démantelé la coque elle-même. C'est plus intéressant. Et puis, on découvrait aussi que, j'ai souvent entendu dire que le nombre de canots de sauvetage était très insuffisant à bord, mais en fait, ce nombre de canots de sauvetage, semble-t-il, était parfaitement réglementaire pour des raisons toutes simples, c'est que les navires qui faisaient la traversée entre l'Europe du Nord-Ouest et l'Amérique du Nord à l'époque étaient très nombreux, ça constituait quasiment un train de navires, et que normalement, dans le cas d'un naufrage, il y a immédiatement d'autres paquebots qui viennent se porter au secours de celui qui est en difficulté, et les canots de sauvetage ne servent qu'à faire la navette entre les navires. Et là, ce qui a empêché cette navette, semble-t-il, c'est que la mer était couverte d'icebergs et que les navires n'ont pas osé s'approcher de Titanic.
Alors, je voudrais d'abord répondre sur la question de la coque et des rivets.
Oui.
C'est contre de la glace, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, alors, les Américains, effectivement, ont mis en avant cette histoire de rivets, mais je pense que même si les rivets avaient été infiniment plus solides, là, rien ne pouvait empêcher le Titanic de couler, si ce n'est en percutant l'iceberg de plein fouet. Là, je pense que l'officier de Sidcar a commis une erreur. Il n'aurait pas dû essayer de l'éviter, il aurait dû le prendre de plein fouet. On a un exemple avec le Royal Edward. Ça s'est passé à la veille de la guerre de 14. Ce paquebot s'est retrouvé dans les mêmes conditions que le Titanic. Le commandant qui était à la passerelle, sa première réaction, ça a été de faire venir le bateau sur sa gauche. Et puis, au moment où il allait donner l'ordre, il a repensé au Titanic. Il a dit « arrière toute » et on continue comme ça. Donc le paquebot a heurté l'iceberg. Il a eu des dégâts, mais il est resté à flot. Deuxième point, les icebergs, ben oui, vous avez raison. La mer était couverte d'icebergs. Et quand le Carpathia est arrivé au secours des naufragés, le commandant Rostrom du Carpathia avait demandé un de ses officiers de compter les icebergs. Et son officier lui a répondu, écoutez commandant, j'en ai compté une trentaine, mais je n'ai pris que les plus gros, les autres je ne pouvais pas. Ils étaient trop nombreux.
Ah oui, c'est ça. Cet ouvrage, Nous étions à bord du Titanic, sort donc dans les jours qui viennent, mercredi je crois. Pendant cette période de vacances de Noël, il y a évidemment un grand nombre de nos auditeurs qui vont aller en vacances, certains en croisière. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour les rassurer ?
L'industrie de la croisière, l'industrie du paquebot, des ferries, de la croisière, c'est l'industrie la plus sûre du monde. Ils ont toujours un temps d'avance sur tout le reste. Le danger numéro un à l'heure actuelle a été identifié, c'est le terrorisme. Mais lorsque les compagnies, lorsque le monde entier est en orange, eux, ils sont déjà en rouge.
Merci beaucoup, Gérard Piouffre, de nous avoir fait rêver avec ces grands paquebots, même si certains, on le sait, ont coulé.
Ferrand sur Europe 1.
Un véritable florilège de tout ce qui attend les amoureux d'histoire en 2012. C'est donc ce que je vous propose pour cette dernière émission du dernier jour de l'année en compagnie d'Alain Vircondelet. Alors, Alain Vircondelet, si l'on devait parier sur l'événement qui, dans l'année qui vient, fera le plus de bruit, pour ma part, je miserais évidemment sur les 50 ans des accords d'Évian et de l'indépendance de l'Algérie. Indépendance effective à compter du 5 juillet 1962. Vous venez, vous, de publier deux ouvrages sur le sujet. C'était notre Algérie, hein, avec des photographies de Jean-Pierre Stora. C'est un très bel album sur ce qu'a été l'Algérie française. Et puis, vous publiez là, ces jours-ci, aux éditions First, dans la collection Documents, un ouvrage qui s'appelle La Traversée et qui est sous-titré Été 62, les pieds noirs quittent l'Algérie. Ça, c'est sur cet arrachement terrible dont vous êtes bien placé pour parler, évidemment.
Oui, je suis un fils d'Alger.
Oui.
Et c'est Titanic, là aussi. C'est un autre Titanic, c'est quelque chose qui s'est effondré. Moi, je ne me sens pas du tout comme un rapatrié, je me sens comme un expatrié en France.
Votre vrai pays,
oui.
C'est là-bas.
Ah ben, c'est totalement là-bas, et je pense que le million de pieds noirs qui a effectivement vécu toute la guerre d'Algérie et bien avant, dans d'autres générations, sont tout à fait dans la même disposition d'esprit. Ils n'ont jamais quitté l'Algérie, finalement, dans leur esprit, dans leur tête. C'est une grande douleur, un grand exil.
Pendant les années qui viennent de s'écouler, nous avons évidemment évoqué au fur et à mesure l'évolution de cette guerre d'Algérie à mesure que les anniversaires se présentaient. Nous avons parlé notamment du putsch des généraux, là, pour l'année 1961. Nous avons vu à quel point l'espoir était très grand des deux côtés, on pourrait presque dire des trois, même si les Français de France, comme on les appelait, s'intéressaient relativement peu à la question, au fond.
Il y a eu, en fin de compte, trois camps dans l'année 62. C'était l'année cataclysmique, c'était l'année terrible, parce que c'était l'année où De Gaulle a évidemment lâché le pays. C'est l'époque où l'OAS n'a pas voulu céder. Et c'est l'époque où les pieds noirs ont compris qu'ils allaient partir, mais dans quelles conditions ils ne le savaient pas. Et c'est l'époque également où les Algériens, eh bien, étaient en train de préparer l'après-accord d'Évian.
Alors venons-en aux Français d'Algérie, oui. Aux pieds noirs, donc,
oui,
comme on
les
appelle.
Oui, je pense que ce qui va aussi intéresser beaucoup, je pense, cette commémoration, c'est que jusqu'à présent, on parlait toujours de l'Algérie algérienne et on commémorait l'événement considérable qui était quand même le don clé en main que la France faisait à ses ennemis. Puisqu'on parle de guerre, hein, puisqu'on a décidé de parler de guerre et non plus d'événements.
On a parlé tardivement de guerre.
Ah oui, c'est avec Chirac, donc il y a très peu d'années. Et donc, c'était bien nos ennemis. Or, l'Algérie a été donnée clé en main à ceux que la France combattait.
Il y avait bien des termes d'échange, mais on peut dire que l'essentiel de l'échange était secret. C'était des questions atomiques et des essais nucléaires.
Oui. Et d'ailleurs, pendant 5 ans, la France est restée sur le territoire saharien pour continuer ces expériences et en même temps pour faire partir ces fusées. Donc l'année 62 a été une année terrible en ce sens que on a toujours parlé d'abord ça a été une très très grande violence et toutes les commémorations qui ont eu lieu jusqu'à présent faisaient évidemment le récit de cette volonté, cet élan extraordinaire qui s'était emparé des Algériens et certainement à bon escient puisqu'ils voulaient leur indépendance et leur libération et leur liberté. Donc, qui pouvait effectivement y contrer une telle volonté. Mais en même temps, il y a eu les Français d'Algérie qui ont été totalement sacrifiés et sur l'autel de la décolonisation.
Sacrifiés en peu de temps et sans compensation. Sans il a fallu partir là. Vraiment.
Il a fallu partir. Vous connaissez le mot connu, la valise ou le cercueil, n'est-ce pas? Et donc ils sont partis et ils ont été finalement laissés pour compte de tout, honnis par les intellectuels intellectuels français. Il faut voir comment les intellectuels et les artistes, les écrivains, de Duras à Blanchot, de Sartre à Beauvoir et bien d'autres, à Janson et d'autres, comment nous avons été traités. Donc, les intellectuels, tout le monde culturel, le gouvernement français, De Gaulle et ses ministres,
le monde
politique a été très hostile pour la bonne raison qu'il voyait dans, et peut-être à raison aussi, qu'il voyait dans le peuple pied-noir des subversifs, des sympathisants de l'organisation de l'armée secrète. Car effectivement, l'OAS, ce fut le dernier recours pour les pieds-noirs, puisque c'était ceux-là seuls qui défendaient les pieds-noirs. Donc les pieds-noirs se sont jetés dans leurs bras. Et dans le bras des putschistes. Et donc, on défiait la terre-mère, la mère patrie, c'est-à-dire la France et le gouvernement français. Donc, le gouvernement français était ennemi des pieds noirs, finalement, puisque moi, j'ai essayé de retrouver dans le livre que je viens de sortir, La Traversée, j'ai essayé de ressortir des documents qui sont accablants pour le pouvoir gaulliste. Il faut voir comment Jox, comment Debray, comment...
Nous allons venir dans un instant, Michel Debray,
comment Boulin, comment Perfitte ont rapporté dans des verbatims ce que le général de Gaulle disait véritablement des pieds noirs. C'est un peuple qu'il fallait rendre absolument le plus vite possible soluble parce que nous étions dangereux. Nous étions des subversifs, des tenants d'un pouvoir de droite ou d'extrême droite même. Et donc, il fallait préserver la jeunesse française des jeunes pieds noirs. Donc moi, je me suis retrouvé à 15 ans au bastingage du ville d'Alger. Et je suis parti avec une valise.
Ou alors c'était
le navire du ville d'Alger. Et j'ai connu ce départ incroyable. Et avec les jeunes garçons avec lesquels je parlais pendant la traversée, nous étions donc considérés comme de dangereux subversifs.
Quel était l'état d'esprit dominant ? C'était la détresse ?
C'était
à la fois l'arrachement et la peur de l'inconnu.
Je crois que ce qui a été le plus fort, c'est une attitude tétanisée. Je pense qu'il y a une sidération sur le bateau. C'est ce dont je me souviens. Des gens ne pleuraient même pas, mais ils étaient sidérés. Mais je dois dire que l'image la plus forte qui m'est restée, c'est la foule pied-noir accoudée au bastingage du paquebot et voyant partir sa ville. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que véritablement, il y avait... Là, j'ai compris ce qu'était l'exil, j'ai compris ce qu'était l'arrachement, la douleur. Et de voir partir la ville et de la voir finalement s'engouffrer dans les flots au bout d'un certain temps, là, on avait compris qu'on était seul au monde.
Vous êtes retourné en Algérie depuis ?
Oui, j'ai été un des rares, je dirais, auteurs, écrivains qui est pied-noir à revenir sur sa terre natale 20 ans après, en 82. Pendant 20 ans, ça a été quelque chose de complètement caché, de complètement secret. Au contraire, je voulais me fondre totalement dans l'esprit français, donc je voulais être professeur de littérature française, donc j'ai conduit des études de cette sorte. Et j'avais même un défi que j'avais tenu sur le bateau. J'avais dit, pour me venger, j'enseignerai le français à ceux-là même qui me refusent de revenir sur leur terre. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand les pieds noirs sont arrivés, moi, la première chose que j'ai vue en arrivant à Marseille, c'est une grande banderole des dockers de Marseille disant « Revenez d'où vous êtes partis ». Donc ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut savoir que une grande partie des cubages de mobilier que les pieds-noirs ont rapatriés donc en France ont été sciemment mis à l'eau dans le port de Marseille et que le mobilier flottait dans le port de Marseille. Donc ça a été quelque chose avec un maire qui était Gaston de Fer, qui a été extrêmement hostile à l'arrivée des pieds noirs et qui a, je le ressors dans ce livre justement, au cours d'une interview qu'il a donnée à un journaliste dans la Marseillaise, il a dit carrément, mais qu'ils partent parce que j'ai mes dockers et j'ai mes chauffeurs de taxi et ils sauront de quel bois nous nous chauffons.
il y a une mémoire pied-noir
oui.
qui s'est installée.
Ah oui, il y a une mémoire pied-noir, mais en même temps, je dirais qu'elle commence à s'émousser un petit peu parce que les pieds-noirs ont, contrairement aux Algériens qui viennent en France, une difficulté d'assimilation, les pieds-noirs se sont très bien assimilés et sont finalement coulés dans le moule français. Il y a eu de grands artistes, de grands écrivains, il y a eu de grands poètes pieds-noirs, de chanteurs et beaucoup d'agriculteurs qui ont sauvé, parce que les pieds-noirs ont l'esprit pionnier finalement. Hein. Et alors ils ont cette capacité de rebond extraordinaire. Et ce sud-ouest par exemple, qui était extrêmement en jachère un petit peu, eh bien ils ont acheté les propriétés et ils ont recommencé ce que leurs ancêtres avaient fait dans les années d'après la conquête.
Voilà donc un anniversaire, un cinquantenaire qui promet d'être douloureux, mais aussi oui. probablement houleux.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À l'époque où l'Algérie devient indépendante, le Premier ministre en France est Georges Pompidou, qui vient juste de succéder à Michel Debré. Michel Debré, grand Premier ministre du général de Gaulle, principal rédacteur de la Constitution de la Ve République, donc le premier de ses premiers ministres. Michel Debré qui a aussi été maire d'Amboise, plus tard député de La Réunion, académicien, et dont on célèbre, en tout cas dont on va célébrer là dans quelques jours, le centenaire. Il était né le 15 janvier 1912. L'un des célèbres fils de Michel Debré, Jean-Louis, est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Il nous fait l'honneur d'être avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Merci beaucoup de cette participation. C'est donc votre père qui aura négocié pour l'Algérie une indépendance dont il faut dire qu'il avait longtemps combattu.
Oui, d'abord cette période a été pour mon père une période difficile et douloureuse. Car il était persuadé que l'Algérie apportait à la France et au rayonnement de la France un apport important. Mais il s'était rendu compte, arrivé au pouvoir avec le général de Gaulle, que, à l'évidence, les événements avaient fait que l'Algérie ne pouvait plus rester sous la souveraineté de la France. Il en allait du rayonnement international de la France. Donc même si c'était très douloureux, je crois qu'il a compris qu'il ne pouvait plus en être ainsi. Alors il y a eu la grande question qui est demeurée un peu le pierre d'achoppement entre le général de Gaulle et mon père, qui était le problème du statut du Sahara.
Oui, notamment, c'était
notamment.
Une des pierres d'achoppement. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le départ de votre père de Matignon était lié à ces grands événements de l'année 62 ?
Pas totalement. C'est-à-dire que mon père était convaincu qu'il était nécessaire, après toute cette épreuve de l'Algérie et du retour au pouvoir du général de Gaulle, d'entamer une nouvelle période et que celle-ci devait passer par une dissolution de l'Assemblée nationale pour redonner un nouveau souffle. Et le général n'était pas dans cette lecture de la Constitution et donc mon père a préféré prendre un peu de champ. Et d'ailleurs, quelques semaines plus tard, Pompidou sera mis en minorité par l'Assemblée nationale. Ce qui montrait que mon père avait bien vu que la majorité qui avait été élue en 1959 avait été élue après l'effort de rétablissement de l'autorité de l'État, de la Constitution et des principaux textes organiques pour aboutir à la solution du problème algérien, que celui-ci étant terminé, le mandat que l'Assemblée avait reçu du peuple était lui aussi terminé.
Alors on va célébrer dans quelques jours le centenaire de la naissance de Michel Debré, donc oui. le 15 janvier 1912. C'est peut-être l'occasion de dire un mot de votre grand-père, le professeur Robert Debré.
Oui, mon grand-père. C'est dire un mot de cette petite famille qui est issue de l'Alsace, où mon arrière-grand-père, qui était grand rabbin, avait quitté l'Alsace pour ne pas être allemand et qui était devenu le grand rabbin de Neuilly. Et puis mon grand-père, ami de Peggy et de Valérie, s'est marié à une femme qui a été la troisième femme interne des hôpitaux de France, qui, issue d'une famille catholique de Toulouse, avait rompu avec sa famille parce qu'elle faisait partie de la branche catholique et dreyfusarde. Et donc, si vous voulez, l'histoire de France a marqué cette petite famille alsacienne et toulousaine, juive et catholique. Et d'ailleurs, on va retrouver chez mon père cette tolérance à l'égard du phénomène religieux. Et mon grand-père, qui a été très proche des principaux dirigeants de la Troisième République. Il était l'ami intime d'Abel Ferry. Abel Ferry, oui, c'était le neveu de Jules Ferry. Et Abel Ferry a eu comme caractéristique d'être à la fois ministre et soldat. Et il est mort au front au moment de la guerre de 14-18. Et c'est mon grand-père qui est allé chercher le corps pour le ramener à sa famille. Et puis, il a été l'ami, le confident de Peggy, de Valérie et de François Mauriac plus tard.
Alors, comme tous les hommes de cette génération, évidemment, votre père a été très marqué par la Seconde Guerre mondiale, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était passé par le cabinet de Paul Reynaud aux finances juste avant la guerre.
Oui, il était passé par le cabinet de Paul Reynaud, mais ce qui est assez intéressant, si vous voulez, je trouve, moi, dans l'histoire de la familiale, c'est que c'est la République qui a fait que mon père s'est retrouvé près de De Gaulle. Car mon père faisait partie de la résistance intérieure, mmh, et c'est une certaine idée de la République pour ce jeune maître du Conseil d'État qui a fait qu'il, dans la résistance, ils se sont tournés vers De Gaulle parce qu'ils ont vu en De Gaulle le restaurateur de la République.
Et ça a été cette rencontre qui est relativement tardive. C'est à la Libération que votre père rencontre enfin le général de Gaulle,
oui,
en 44.
Oui.
Pour lui, ça a été vraiment un moment, c'est le grand tournant de sa vie.
Alors, c'est le grand tournant de sa vie. C'est là où il se rend compte que si on veut refaire un État républicain, si on veut reconstituer un pouvoir, face au jeu des partis politiques, face à une assemblée omniprésente et qui gère tout, il faut rétablir, il faut se battre pour le retour au pouvoir du général de Gaulle, et toute la 4e République sera le combat de mon père pour le retour au pouvoir du général de Gaulle, et il sera parfois très seul dans ce combat.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous maintenant, à la tête du Conseil constitutionnel, vous avez en charge le respect d'une constitution dont l'essentiel a été rédigé par votre propre père.
Oui, absolument.
Je me rappelle, moi, les conférences qu'il nous donnait à Sciences Po pour nous raconter comment avait été conçue la constitution de la 5e République.
J'ai deux choses qui m'interpellent toujours. C'est d'abord, j'étais étudiant en droit et il y avait un professeur éminent, le professeur Duverger,
oui, bien sûr, Maurice Duverger,
qui avait écrit un livre qui s'appelait « La 6e République » et qui avait annoncé à tous les amphithéâtres de la rue d'Assas que la 5e République ne survivrait pas à De Gaulle et qu'il fallait enfin construire la 6e République. Ben, on voit que plus de 50 ans après, cette constitution est toujours là. Et en réalité, si elle est là, c'est parce que les constituants de 58, et dont mon père, n'ont pas voulu une constitution pour De Gaulle, ils ont voulu une constitution qui permette le renforcement de l'État et le rétablissement du pouvoir de la République. Et c'est ça. Et ils ont voulu aussi une constitution suffisamment souple qui permette la cohabitation. Puisque suivant qu'il y a une lecture il peut y avoir une lecture parlementaire ou une lecture présidentielle des institutions.
Alors justement, ce qu'il n'avait peut-être pas prévu d'emblée, même sûrement pas, c'était l'élection au suffrage universel direct du président de la République, dont on va précisément célébrer les 50 ans le 28 octobre prochain.
Oui, lorsqu'il y a eu les attentats contre le général de Gaulle, et on a vu à ce moment-là revenir le jeu des partis politiques, tous les dirigeants de la 4e se sont dit, ben voilà, il faut maintenant se débarrasser de De Gaulle, il y a des attentats, puis l'affaire algérienne est réglée, donc revenons à nos petits jeux politiques et faisons en sorte que le président de la République soit élu par les députés et sénateurs, c'est-à-dire qu'on puisse n'élire qu'un d'entre nous. Et De Gaulle, pour casser le retour du régime des partis, a voulu cette élection du président de la République au suffrage universel, qui est passée par référendum. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il s'est opposé au Sénat, qui ne voulait pas, justement, cette restauration d'un président de la République capable de dominer les institutions.
Votre père a été, bien longtemps après, en 1981, candidat à la présidence de la République.
Oui, oui. Il a voulu, à ce moment-là, faire valoir un certain nombre d'idées et témoigner de l'importance qu'il accordait à l'autorité de l'État et à la restauration d'un pouvoir autonome.
Vous-même, vous publiez avec Philippe Lorrain, chez Grund, en tête-à-tête avec les présidents de la République. C'est une galerie de grands portraits que vous nous offrez.
Oui, c'est à travers ces portraits, c'est comment, en France, s'est installée la République. Et c'est grâce à ces différentes personnalités. avec, on voit bien les différents moments où, quand c'est le Parlement, députés et sénateurs, qui élisent un président de la République, on choisit généralement d'écarter tous ceux qui ont de la personnalité. On écarte par exemple Clémenceau, on écarte Ferry, et puis on élit soit quatrième un personnage que personne ne connaît, oui, qui est René Coty, après 13 tours de scrutin, et c'est Coty qui se révèle et qui appelle De Gaulle. Et puis on voit le changement avec la Ve République, où ce n'est plus les députés et les sénateurs qui élisent le président public, c'est d'abord un collège électoral spécial, et puis c'est l'élection du président public au suffrage universel, qui change les personnalités. Mais on voit que malgré tout, si le président de la République, soit quatrième et la troisième, n'avait pas de pouvoir, ils incarnaient quand même l'État, la République et la France.
Voilà ce qu'il fallait dire à la veille d'une année qui sera une année électorale. Merci beaucoup,
merci,
monsieur le président.
À bientôt, merci, au revoir.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Vous comprenez qu'une émission comme ce numéro spécial ne puisse pas être exhaustive. Je vais revenir dans un instant sur un certain nombre des anniversaires et des commémorations qui nous attendent au cours de cette année 2012. Mais auparavant, j'aimerais surtout qu'on revienne sur un événement qui a marqué le dernier tiers du XXe siècle du fait des conséquences majeures qu'il a entraînées pour des milliards de catholiques. C'est le Concile Vatican II, ouvert dans la basilique Saint-Pierre le 11 octobre 1962 par le pape Jean XXIII. Alain Vircondelet, on sait que vous êtes initié aux arcanes du Vatican, vous connaissez bien cette histoire. On vit encore aujourd'hui à l'heure du Concile Vatican II.
Ah oui, oui, je crois que l'héritage de Vatican II est immense. Et en même temps, les polémiques que ce Concile a provoquées continuent encore aujourd'hui à perdurer. Le schisme de Mgr Lefebvre, par exemple, mm-hmm, est tiré et vient évidemment.
Donc, Mgr Lefebvre, ce sont les traditionnalistes qui refusent évidemment les réformes.
Qui refusent évidemment l'ouverture au monde moderne, l'ouverture à la culture contemporaine que le pape Jean XXIII avait souhaité. Et en même temps,
Paul VI a poursuivi, bien entendu.
Parce qu'il est mort 8 mois après la décision, l'ouverture du Concile.
Ce qu'il faut dire, c'est que le pape actuel, Benoît XVI, était un ardent partisan de Vatican II à l'époque.
Oui, il en était d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Il a participé, Ratzinger a participé également. Et ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est qu'on retrouve toujours les personnages durant ces 50 années qui ont suivi le début du Concile Vatican II. Lorsque Jean XXIII, par exemple, a ouvert le concile, il faut imaginer ce que ça pouvait être. 2300 pères de l'Église qui, en grande aube, en grande robe, chape, etc., qui entrent solennellement dans la grande nef de Saint-Pierre de Rome, où sont installés d'immenses gradins.
Ça a fait des photos magnifiques pour Paris Match à l'époque.
Paris Match, oui. Extraordinaire. Et le pape Jean XXIII qui arrive en sedia gestatoria.
C'est-à-dire qu'il était encore porté par les gardes
suisses. Et au son de Veni Creator Spiritus. Donc il y avait quelque chose d'extraordinairement solennel. Et que dit ce pape qui semble conserver un air traditionnel,
quasi pharaonique, si
oui,
on ose dire.
Il dit une chose tout à fait incroyable. Il dit ouvrez les portes au monde. Et ouvrons les portes de l'Église pour que le monde sache ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Il avait eu cette première idée un jour, avec quelques jours auparavant, avant le début du Concile. C'est son camériste qui le rapporte. Il avait ouvert une fenêtre qui donnait sur la place Saint-Pierre et en ouvrant les portes, il a dit « Voilà ce que nous devons faire. Nous devons nous aussi ouvrir nos portes et nos fenêtres. » Or, il ne faut pas oublier qu'au cours de ce concile Vatican II, il y avait un certain Karol Wojtyla.
Que vous avez bien connu, qui sera plus tard le pape Jean-Paul II.
Voilà, sur lequel j'ai beaucoup écrit, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Eh bien, ce Karol Wojtyla, qui était donc évêque de Cracovie, a participé de façon extrêmement active. C'est lui qui a été l'auteur de plusieurs schémas et de plusieurs décrets qu'il a proposés et qui ont été acceptés, particulièrement sur ce qu'il faisait à Cracovie même. C'est-à-dire Cracovie était devenue, pour ce pape, pour cet évêque moderne déjà, une sorte de laboratoire. Et il pensait que ce laboratoire, toutes les expériences qu'il pouvait y conduire, particulièrement avec les laïcs, avec les femmes, il pouvait, et aussi l'immersion de l'Église dans le politique, hein, un moment donc stratégique qui était le monde communiste dans lequel il se trouvait. Eh bien, toutes ces idées, il a essayé de les expérimenter dans ce laboratoire de Cracovie, qui était très suspect évidemment à l'ordre politique, et il a voulu le proposer à Vatican II. Et il a dit, souvenons-nous, le jour de son arrivée, la messe solennelle en tant que pape Jean-Paul II, en octobre 78, il a dit cette phrase extraordinaire qu'a dite déjà Jean XXIII, « Ouvrons les portes au monde, faisons tomber les murs ». Alors, donc, vous voyez, c'est ça. Vatican II, c'est ça. C'est la mise à jour de l'Église.
Ça, c'est la philosophie. D'un point de vue très concret, quelles ont été les conséquences de ce concile?
Alors, les progressistes disent, en fait, qu'il n'y en a pas eu beaucoup, finalement. Parce que les progressistes prétendent que la hiérarchie est toujours là, et même consolidée. Hein, alors qu'ils auraient souhaité qu'il y ait une autorité beaucoup plus horizontale que cette verticalité à laquelle nous assistons, et particulièrement avec Benoît XVI aussi.
La liturgie, voilà.
Ce qui a changé beaucoup, c'est qu'effectivement, on est passé du latin aux langues vernaculaires.
Par exemple, en France, à faire la messe en latin.
Voilà. Donc, la messe en français. En français. Hein. Oui. La messe, c'est Monseigneur Lefebvre qui a souhaité que la messe demeure en latin. et donc, on voit ça déjà apparaître. Donc, la liturgie a changé. Et puis, une conception plus ouverte sur les rapports de l'Église avec le monde politique, de l'Église avec la culture, de l'Église avec les femmes, de l'Église avec les laïcs. Et ça, c'est très très important, parce qu'aujourd'hui, nous assistons effectivement, peut-être, je dirais, faute de combattants aussi, hein, car il y a beaucoup de perdition de vocation, mais l'Église a fait appel aux laïcs.
Est-ce que ça n'est pas Vatican II qui a vidé les églises? Je me fais là l'avocat du diable.
Oui, alors on l'a dit aussi, on a dit que Vatican II avait contribué à la destruction du patrimoine religieux même, hein, puisque beaucoup de prêtres de chapelles ou d'églises ou de paroisses se sont mis à brader, à vendre aux antiquaires tapisseries, objets liturgiques et statues qu'il jugeait trop anciennes pour donner un air moderne à l'Église. C'est vrai qu'il y a eu ces égarements-là, qu'il y a eu ces errements, mais je pense qu'on ne peut pas nier l'importance que Vatican II a eue. C'est quelque chose de fondamental dans l'Église, parce qu'au moins l'Église a parlé, et aujourd'hui, vous le remarquez, elle est la plus grande communicatrice qui soit.
Merci beaucoup Alain Vercondelet de nous avoir expliqué ce qu'était ce concile et son importance, parce que je crois qu'une grande partie de nos contemporains ont oublié cette importance-là. Je vous propose, puisque c'est la toute fin de l'année, un petit jeu. Si vous voulez, je vous donne un certain nombre de célébrations qui vont prendre place dans cette année 2012. Et vous m'arrêtez quand vous voulez, si vous avez un commentaire à faire. On va célébrer le 450e anniversaire de la naissance d'Ambroise Paré, le premier chirurgien du roi. Le 400e anniversaire de l'inauguration de la place Royale, qui est devenue la place des Vosges. Le 350e anniversaire de la mort de Blaise Pascal. Ça, nous aurons l'occasion d'en parler.
Oui, j'ai écrit une biographie de Blaise Pascal.
Ce serait l'occasion de se revoir. On a parlé de la naissance de Jean-Jacques Rousseau en 1712. La même année naissait l'abbé de l'Épée, qui sera l'inventeur du langage pour les sourds et muets. Et puis, la victoire de Denain en 1712, quand même. Ça a été un moment très important. Jamais la France, peut-être, n'était descendue si bas, et jamais la monarchie française n'avait été si près, si proche de sa perte. En 1762, c'était l'ouverture à Lyon de la première école vétérinaire du monde. Ça, je ne sais pas si on en parlera tellement. 1862, ça fait donc 150 ans, naissait Aristide Briand, grand personnage, très, très intéressant également. On aura l'occasion d'en reparler. Tout ça, ça nous promet de belles émissions pour l'année qui vient. Et puis, nous avons évoqué la naissance de Michel Debré en 1912, mais il y a aussi eu celle de Lucie Aubrac. En 1912, c'était l'année où Roland Garros a relié l'Afrique à l'Europe avec son petit avion. Ça, c'était un grand exploit. Et puis, c'était la mort d'un très grand mathématicien, Henri Poincaré, dont nous avons eu l'occasion de parler ici. La naissance aussi, en 1912, d'un certain Henri Grouès qui allait devenir l'abbé Pierre. Personnage, là encore, figure emblématique.
Vous imaginez le travail des biographes.
Oui. Ça laisse un peu de temps encore en même temps pour ce qui est de l'abbé Pierre. Nous avons parlé ici même de l'hiver 54 il y a quelques années. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale.
Merci à vous.
Il me reste à vous souhaiter une très très bonne soirée de Saint-Sylvestre. Profitez bien des dernières heures de 2011 et puis avec un tout petit peu d'avance, mais je crois qu'on peut se le permettre. Et je sais que Guillaume Vasseau et Lorena Martin se joindront à moi pour vous souhaiter une très belle et très grande année 2012. D'immenses émissions nous attendent encore, vous verrez. Nous allons nous régaler avec ce programme dont nous n'avons vu aujourd'hui que l'écume.
Et oui, Franck, et lundi, votre émission s'intitulera « Des maquis à l'Indochine, un prince dans la guerre ». Tout un programme, comme vous dites, et votre invité sera Michel de Bourbon-Parme. Dans quelques instants sur Europe 1, cette famille.